spécial à Rock 2019 sur Cob FM.
Sur Cob FM. Bonne journée à l'écoute de Cob FM, la spéciale à Rock qui continue avec des extraits de la conférence de presse de Voyou. Voyou qui se produit ce soir à partir de 19h30 sur la scène B du festival à Rock de Saint-Brieuc. Une conférence de presse animée, je vous le rappelle, par Julien.
Bonjour à tous, Thibaut de Voyou. Alors merci de ta présence, Thibaut.
Ben, merci de m'accueillir.
Ben, c'est avec plaisir. Alors moi, je t'avais vu l'année dernière, je t'ai vu au Vieille Charrue, sur une scène annexe.
C'est sur la scène Graal, je crois.
Ouais, la scène Graal. Donc moi, je te découvrais là. Depuis, tu as sorti un album, ton premier album sur la belle entreprise.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous poser un peu le décor de la naissance de ton projet artistique, donc qui s'appelle Voyou? Est-ce que tu peux un peu nous présenter ton pédigré?
Alors, c'est un projet qui est arrivé après avoir fait une dizaine d'années de tournée avec des groupes.
D'autres groupes aussi, oui. Voilà.
Ouais, avec des groupes. Donc j'étais à Nantes, donc un peu dans la région. C'est pour ça que je connais pas mal les festivals du coin et tout ça. Et du coup, je commençais à en avoir un peu marre de passer énormément de temps en répétition, à tout cérébraliser, à devoir échanger avec l'ego de plein de musiciens différents et tout ça. C'est parfois super et parfois c'est très compliqué. Et là, ça commence à devenir un peu trop compliqué. Et je me suis mis à reprendre plaisir à faire de la musique en composant de la musique sur mon ordinateur en rentrant chez moi après les répètes, quoi. Et du coup, le projet, j'ai commencé. Donc mon premier EP, il est sorti il y a un an et demi, quelque chose comme ça. J'avais fait un an de tournée avant. Et là, du coup, en février, on a sorti mon premier album avec le label Entreprise. Et voilà, et depuis on le défend. Donc j'ai fait 2 ans tout seul sur scène et maintenant je suis accompagné de musiciens et de musiciennes. Et voilà, donc là ça fait depuis mars qu'on tourne et on est très content de venir ici.
J'ai cru comprendre que t'as été exposé très tôt à la MAO.
Ouais.
Parce que ton père, visiblement, ton père te laissait sur l'ordi et t'as pu un petit peu bricoler dans ton coin. C'était cool, ça. C'est ça qui a un peu aussi encouragé peut-être de sortir du carcan. Justement, c'est vrai que tu parlais du carcan, de la composition d'un groupe, hormis les agendas de chacun. Il y a les égos qui viennent s'ajouter, c'est généralement. Mmh. Et c'est marrant, on discutait avec Suzanne hier, qui était en conférence de presse. Il y a beaucoup d'artistes, de jeunes artistes, qui lâchent un peu justement cette entité de groupe et qui se lancent de plus en plus tout seuls dans ces.
C'est assez. Ouais. En fait, il y a déjà le côté très simple de la MAO, c'est que tu peux être tout seul avec un ordi et à peu près n'importe où. Tu sais, c'est comme les écrivains qui peuvent écrire à n'importe quelle terrasse de café. C'est un truc qui était complètement impossible pour les musiciens avant et maintenant tu peux être à une terrasse de café et écrire de la musique, et même écrire de la musique arrangée, quoi. Donc c'est très pratique. Moi, quand j'ai commencé, j'avais quelque chose comme 12 ans. Mon père, il avait ça parce qu'il était prof de musique en collège, et il faisait des comédies musicales avec ses élèves. Et du coup, il avait trouvé cet outil-là. Donc c'était Cubase, mais genre, j'imagine le premier Cubase ou le deuxième, peut-être. Et il avait trouvé cet outil-là pour pouvoir... à l'époque, tu pouvais faire des sons d'orchestre vraiment tout pourris, mais qui te donnaient quand même l'impression d'avoir des instruments qui jouaient. C'était super rudimentaire, mais ça a vachement évolué. Et je suis content d'ailleurs d'avoir commencé à très jeune, d'avoir pu apprendre la technique d'utilisation du logiciel, parce que du coup, ça me permet maintenant de pouvoir utiliser toutes les technologies qui arrivent sur ce truc-là, sans perdre de vue le truc principal qui est le fait que c'est censé être fait pour de la composition à la base et pas juste de la production. Mmh. Et voilà, donc j'ai fait ça depuis toujours. Ça m'a permis toujours pouvoir composer des choses, même si j'avais pas spécialement envie de les faire écouter, et ben, juste pour moi, pour composer des morceaux et m'amuser, quoi.
Mais t'es aussi multi-instrumentiste, c'est aussi ça qui tu maîtrises d'autres instruments. C'est vrai qu'on discutait avec Suzanne hier, qui disait qu'elle elle a pas forcément de formation musicale et que du coup elle est juste sur de l'électro, alors que toi t'as quand même un univers assez luxuriant où t'inclus pas mal de choses, mais la base c'est principalement la compo par ordinateur, ou tu comment est-ce que tu montes tes trucs hein.
Ça dépend où je suis pour composer, parce que ça peut être j'essaie d'intégrer un maximum d'instruments organiques, naturel, on va dire. Ouais. De véritables instruments. Ouais. Et après, il y a des fois où je suis sur la route et j'ai pas forcément une guitare que je peux brancher dans une carte son et tout ça. J'ai pas forcément d'électricité. Donc je prie pour que ma batterie d'ordinateur dure le plus longtemps possible et je compose des parties que je vais après réenregistrer avec des instruments, mais en utilisant des instruments virtuels. Mais c'est voué à être enregistré par des vrais instruments après, ouais, la plupart du temps. D'accord. J'ai la chance d'avoir étudié la musique tôt au conservatoire et du coup d'être capable d'écrire la musique et aussi de la penser, c'est-à-dire de savoir, par exemple, telle guitare, je peux faire, enfin une guitare, je peux la jouer de telle manière. Et donc écrire une ligne de guitare dans ma tête que je vais poser avec un instrument virtuel et que je vais pouvoir rejouer après. Donc il y a plein de morceaux qui sont nés un peu comme ça. Après, parfois ça laisse pas trop place à l'erreur, mais en tout cas c'est comme ça que je fonctionne.
D'accord. Au niveau de tes paroles, t'es sur encore un truc très générationnel, beaucoup sur le quotidien, sur des choses qui sont assez personnelles. C'est générationnel aussi parce qu'il y a toute une génération de millennials un petit peu qui débarquent avec des choses assez sérieuses en fait, faussement légères. Je trouve que tes titres sont faussement légers. Il y a une espèce de décalage entre le côté un peu frais et des paroles qui au final sont assez intéressantes et certaines profondeurs quoi.
Merci. En fait, moi on me dit justement souvent que je suis pas forcément trop raccord avec la génération des gens qui écrivent autour de moi parce que je raconte des histoires et je parle pas de moi tant que ça. Là où c'est beaucoup, tout est très tourné sur la première personne et le jeu, quand t'écoutes des artistes, tous les chanteurs et les chanteuses qui m'entourent, c'est vrai que c'est très axé sur le jeu. Et puis il y a aussi ce truc qui vient aussi du rap où du coup on parle beaucoup de soi et on aime bien avoir des égo trips à fond dans ce qu'on raconte, et moi je suis plus porté sur les autres et sur écrire des petites histoires sur d'autres personnes. Donc forcément il y a beaucoup de choses de moi qui en sort, mais il y a aussi plein de discussions avec d'autres personnes et plein de rencontres qui me font écrire ces choses-là et qui me donnent souvent plus envie de raconter l'histoire des autres que mon histoire à moi.
D'accord.
Donc c'est un peu en décalage, et en même temps c'est vrai qu'il y a tout simplement le français qui revient et écrit d'une autre manière, et par des gens qui font un truc un peu moins variété aussi. Enfin, en tout cas, il n'y a pas que la variété et que la chanson. Il y a aussi d'autres types de musique sur lesquelles des gens chantent en français maintenant. Donc, ça se mélange. Je trouve qu'il y a des trucs super intéressants qui sortent en ce moment.
C'est peut-être aussi ce que tu dis est intéressant. On a longtemps été, je pense que beaucoup peut-être de jeunes artistes n'ont pas voulu se lancer dans la chanson française parce qu'on était quelque part dans une tradition ou un carcan. Où il fallait faire du texte, il fallait de l'orchestration. Et depuis quelques années, notamment si on prend le label sur lequel tu figures, entreprise avec des gens comme Grand Blanc par exemple, ou Fishback, on a eu l'impression qu'il y a eu une espèce de... Les murs sont un peu tombés et les gens ont un peu plus osé et se sont moins sentis un petit peu avec le fardeau un petit peu de ce truc français... référencer, lettrer, tout ça.
Il y avait peut-être un côté presque pompeux là-dedans. Après, ce qui est drôle, c'est que les mêmes personnes qui détestaient il y a 5 ans, et j'en fais partie, qui détestaient il y a 10 ans la variété française, adorent ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on redécouvre qu'en fait Alain Souchon c'était vachement bien, c'est super, mais il y a. En fait, moi, ma génération, typiquement, on avait nos parents.
Un peu à ça.
Pas forcément, mais en tout cas, il y avait tellement de... Nos parents écoutaient tellement ça de manière frénétique, on va dire, qu'ils en bouffaient tellement de la variété française que c'est devenu la musique de nos parents. Et quand t'arrives à l'adolescence, et ben t'as pas envie d'écouter la musique de tes parents. Et c'est pour ça que moi, par exemple, les groupes que j'ai fait pendant 10 ans, c'était que des groupes qui chantaient en anglais, qui étaient qui étaient très écartés de la variété française et de la musique que nos parents écoutaient. Mais aussi parce que c'était une musique qui se construisait en opposition à ce que nos parents écoutaient, je pense. Et il y a un moment donné où toute cette génération qui, là, a l'air d'être foisonnante et de faire des trucs super, et ben, on aura l'air d'être des gros ringards, quoi. Mais comme les rappeurs auront l'air d'être des gros ringards, et comme tous les trucs qui ont du succès à un moment donné deviennent des trucs ringards, parce qu'une génération a écouté ça via ses parents et du coup a pas envie d'écouter ça, mais le redécouvre souvent après, quoi.
C'est un peu la remarque que je me faisais avec Fishback, justement, qui pour moi, typiquement, c'est des sons très 80, ça me fait penser à des trucs un peu, Julie Pietri, des trucs que j'ai, pareil, que mes parents écoutaient, et qui pour moi sonnaient, c'était de la variété 80, quoi. Et en fait, ces trucs-là reviennent un peu au goût du jour, avec des sont remis un peu au frais, quoi, c'est bizarre.
Ils reviennent, et en plus de revenir, ils font revenir les fantômes du passé, un peu. T'as des... tu vois, genre Juliette Armanet, par exemple, qui a super bien marché. Elle a été vachement comparée à Véronique Sanson,
bien sûr, ouais,
qui est redevenue populaire comme ça à fond aussi. Moi, je trouve ça bien parce que ça met en lumière le fait que nos vieux chanteurs sont pas des ringards parce qu'ils sont vieux et qu'ils ont une œuvre qui est superbe et qu'on continue à écouter. Et quand tu vois la ferveur que les gens peuvent avoir à chanter des tubes des années 80 ou des années 70, tu te dis bon, bah, c'est quand même super cool, quoi. Ça serait con de s'en priver de ça et de trouver ça ringard juste par positionnement, tu vois.
Et c'est quoi, justement, ça fait un point avec ma prochaine question, ta culture musicale, tu l'as construite, tu avais un père qui était prof de musique, donc je sais pas si tu l'as peut-être construit en opposition ou si tu as suggéré des choses, et ta culture musicale, alors j'ai vu que tu étais fan d'un truc, moi, un groupe dont je suis hyper fan, il s'appelle Deer Hunter,
ouais.
Notamment l'album Micro Castle, qui pour moi reste une référence, ouais, voilà, qui est un truc très indé.
Pas si indé que ça, Deer Hunter. Ça reste encore des trucs qui sont... Enfin, tu vois, qui font des tournées devant beaucoup de gens et qui sortent encore des albums. Et
je pense que Cranky Hunter, au départ, donc Cranky, c'est pas le label, tu vois, c'était pas le label.
Mais c'est un mec qui a bien marché, je crois. Là, il est encore en tournée. Bien, ouais. Mais en fait, il y a aussi ce truc cool de ces genres d'artistes qui étaient voués à être vraiment des trucs indie dans l'oubli. Ben, finalement, ils ont tellement des publics de niche un peu partout dans le monde que ça vend des disques, que ça tourne et que finalement, ils ont la belle vie. Et c'est cool parce que c'est des mecs qui perdent pas de vue leur idée première qui est de faire de la belle musique et c'est trop bien. Moi, si je peux fonctionner comme ça dans mon projet, je le ferai. Après,
ta culture, du coup, musicale, tu l'as construite.
C'est très très large, quoi. J'ai beaucoup. En fait, mon père, du coup, lui, il était musicien, mais comme beaucoup de musiciens, finalement, il écoutait assez peu de musique. C'est bizarre comme truc, mais en tout cas, les musiciens classiques ont cette espèce de défaut d'avoir plein de CD chez eux, mais de pas forcément trop les écouter. Du coup, c'est plus ma mère qui me faisait écouter des trucs. Du côté de mon père, j'ai quand même beaucoup écouté de musique classique et de jazz, qui sont encore des choses que j'écoute énormément aujourd'hui parce que ça reste un style de musique qui est super. Et même si jamais il y a plus grand chose qui se fait là-dedans, qui moi m'intéresse, il y a quand même des œuvres, c'est quand même un puissant fond, quoi. Et après, ma mère, elle écoutait beaucoup de musique sud-américaine, de musique latine plus, de musique africaine aussi un peu, et puis de variété française à fond. Après, du coup, quand j'ai passé l'adolescence, j'ai commencé à écouter d'abord beaucoup de toutes les choses que eux m'avaient jamais fait écouter, où tous mes potes me disaient quoi, mais t'as jamais écouté ça, c'est trop bizarre, genre les Clash, je sais pas moi, tous les groupes de rock, même les Beatles, finalement, j'avais jamais entendu les Beatles chez moi, ou les Rolling Stones, ce genre de trucs, même si c'est pas enfin. Du coup, j'ai beaucoup écouté ces artistes-là, beaucoup de punk, beaucoup de garage. Et à côté de ça, commencé à écouter beaucoup de soul et par là, beaucoup de musique, comment dire, de musique africaine, de musique un peu de partout dans le monde.
Je crois que t'es fan de Francis Bébé, c'est ça?
Ouais, Francis Bébé, c'est un artiste que j'aime beaucoup, mais qui a eu un espèce de retour de hype parce qu'il y a un super label, Born Bad, qui a ressorti des disques à lui, mais il a aussi des disques, j'ai des disques chez moi de lui où c'est juste de la guitare, où il chante même pas. Ils sont des trucs complètement oubliés, mais qui sont super beaux. Mais plein de choses, beaucoup de musique africaine du Moyen-Orient aussi, de musique turque, des musiques asiatiques aussi. Et puis aussi beaucoup de musique anglo-saxonne et de musique française finalement. Mais il n'y a pas de, j'ai pas de forcément de phase où je vais écouter que un style de musique. J'écoute plein de disques qui me plaisent et puis voilà.
D'accord. Alors Thibaut de Voyou, est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec Yael, l'artiste briochine, sur ce single Les bruits de la ville?
C'est vrai qu'on est à Saint-Brieuc là.
Bah oui.
<quand même. rire> Et ben en fait, j'avais d'abord rencontré Grand Marnier. J'avais rencontré, en fait, il bossait avec Bagarre, qui est un groupe de mon label, et il a enregistré le premier disque de Bagarre. Enfin, il était là pendant la production. Et on s'est rencontré chez mon label. Et on s'est tout de suite très bien entendu. Et en fait, lui, il avait déjà écouté ma musique, il avait déjà fait écouter à Yael. Et ils m'ont proposé de venir. Enfin, ils sont d'abord venus me voir au Transmusical, donc c'était il y a 2 ans, je crois, un truc comme ça. Je les avais déjà croisés il y a des années à Panorama et tout ça, mais ils se rappelaient pas trop de moi parce qu'à l'époque, j'étais bassiste pour les groupes, donc tout le monde s'en foutait un peu, quoi. Je suis allé chez eux, j'ai passé 3 jours à Saint-Brieuc. Et on a fait 3 jours à composer, enfin à faire de la musique ensemble sur des morceaux à eux, plutôt des trucs destinés à Yael qu'à Voyou d'ailleurs. Enfin, même c'était pas du tout destiné à Voyou. Mais après ça, je suis parti au Pays Basque pendant 3-4 jours pour faire de la musique, juste pour écrire des nouveaux morceaux pour moi. Et j'ai écrit ce morceau que je lui ai envoyé, que je leur ai envoyé, mais sans arrière-pensée. Et ils m'ont dit, vas-y, on l'enregistre ensemble. Je fais, ok. Donc elle a chanté avec moi sur le morceau, quoi.
Et elle va t'accompagner ce soir sur la scène B?
Oui, elle sera là ce soir. Ah. Bah, elle habite ici, donc c'est sûr qu'elle sera là. Je vais pas la laisser dans le public pendant son morceau, quand même. ça serait abusé.
C'est quoi là, tu es sur le service après-vente, la tournée de ton album. Donc là, tu vas tourner, enfin, tu as commencé la tournée, hein, puisque passer l'été sur les festivals. Tu as déjà commencé un peu à réfléchir à ce que tu allais faire derrière. Est-ce que tu es du genre à toujours avoir du brouillon, des trucs qui vont te servir pour la suite?
C'était un peu dans cet esprit-là. Les brouillons, c'est sur mon ordinateur plutôt, mais là, j'ai déjà commencé à écrire le deuxième album. Ouais. Mais parce que j'ai pas envie de. Comment dire? J'ai vu ça chez plein de potes à moi, et ce truc de tu sors ton album et c'est un aboutissement, amen, oura, ou je sais pas quoi, et du coup, en fait, tu dis c'est bon, je suis tranquille, je vais faire des concerts, ça va être génial. Et tu perds, c'est une musculation comme une autre, hein, l'écriture, c'est un travail, c'est-à-dire que c'est du fun, c'est super, on a l'impression que c'est hyper simple et tout, mais en fait, c'est du travail d'écrire des morceaux, et surtout quand tu fais vraiment de la recherche dans la musique que tu fais, ben, en fait, ça prend du temps. Et j'ai pas envie, et puis surtout moi ça me passionne de faire ça, du coup j'ai pas envie de m'arrêter d'écrire des morceaux ou de faire des musiques ou d'écrire des paroles parce que j'ai un album qui est sorti et qu'on parle un peu de moi, tu vois. Parce que c'est pas censé, j'ai toujours écrit de tout temps quand j'étais avec des groupes et tout, et là mon album est sorti, c'est cool, j'ai eu un petit creux de 3 mois où je me sentais un peu vide artistiquement parce que j'avais quand même mis beaucoup dans cet album là. Mais là, je suis déjà en train de réécrire parce que j'en ai besoin pour moi, personnellement. Et puis parce que c'est mon métier et que j'aime faire ça.
Merci Thibaut de Voyou pour cette conférence de presse donnée il y a quelques minutes avant donc son passage sur la scène B du Festival Arock de Saint-Brieuc ce soir à partir de 19h30. On écoute son duo avec l'artiste briochine Yel. Voici les bruits de la ville.
C'est ta chance. Les gens viennent ici et tout recommence. Au milieu des bruits de la ville, toi t'arrives toute timide, perdu dans le décor, le cœur en l'air et les yeux qui dévorent toutes les saveurs de la ville qui t'appelaient entre ses lignes. Solide et sans pitié, les passants s'amassaient dans ses allées, s'élançant comme une rivière. Essaie de rejoindre son cœur. Tu te lances d'un bond, tu te fonds dans la foule. Tu te balades au hasard, comme une plume en plein visage. Si loin, que d'un coup tu t'affoles. Tu sens tes pieds quitter le sol, et ton esprit qui s'envole.
Seul, au petit matin.
spécial à Rock 2019 sur Cob FM.
Sur Cob FM.